Merci d'écouter InfoRC. Il est temps de retrouver des élèves du lycée Marcel Gimon d'Aubenas pour leur magazine.
Actu Terme.
Actu Terme.
Bienvenue dans l'émission Actu Terme, une émission des terminales en spécialité sciences économiques et sociales du lycée Marcel Gimon à Aubenas. L'objectif est de les préparer au grand oral. Chaque semaine, un élève doit présenter un sujet d'actualité dans le domaine économique, social ou politique. La présentation se fait devant la classe, sans notes, en minimum 3 minutes. Le but est double. D'une part, améliorer ses performances oratoires, sa diction, sa posture.
Actu Terme.
Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont la richesse du champ lexical n'est dépassée que par celui de l'amour. La drogue. Plus précisément de la lutte contre le trafic de drogue, des différentes manières qu'il existe de limiter sa propagation. Car effectivement, en ce moment, la lutte contre le narcotrafic est devenue l'un des chevals de bataille de Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, maintenant rejoint depuis le gouvernement Bayrou par Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui tous les deux veulent mener une lutte contre ceux qu'ils appellent les narco-racailles. Dès le 8 et 9 novembre de l'année dernière, ils s'étaient engagés à mener un plan de lutte concret contre le trafic de drogue. Et il est revenu récemment, le 28 mars, dessus, avec un clip promotionnel dans lequel il assume faire culpabiliser le consommateur et donc qui est pour but, effectivement, de limiter la consommation de drogue. Donc, le trafic de drogue, c'est, pour dire simplement, un échange commercial illégal de produits stupéfiants. La lutte contre le trafic de drogue, c'est un débat qui, même s'il ressortit récemment, car partant d'un constat qui est celui de 400 morts dus au trafic directement, donc de règlement de compte et autres actes du genre, qui est celui de 6 milliards d'euros de bénéfices illégaux, qui est celui de multiplication par deux de la consommation de cocaïne ces 10 dernières années. Et donc, ce débat-là, même s'il ressort récemment, c'est un débat qui est long, qui est profond, qui date, et qui est complexe, car révélateur de nombreux débats sociétaux. Donc nous allons étudier les différentes manières qu'il existe et qui sont mises en place à différents endroits du monde pour lutter contre le trafic de drogue. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à ce qui est fait en France, et donc défendu par Bruno Retailleau, à savoir la lutte pure et dure contre le trafic. Ensuite, nous verrons qu'il existerait une autre manière, qui est de se dire que la seule manière de gagner la guerre, ce serait de se dire qu'il n'en est pas une, à savoir la légalisation. Et enfin, nous finirons en dernière partie par étudier une dernière méthode qui serait une sorte d'entre-deux, à savoir une dépénalisation accompagnée d'importantes mesures médico-sociales. Donc tout d'abord, nous allons voir comment s'articule et quels sont les tenants et aboutissants de la lutte directe contre le trafic de drogue, donc de la répression. Alors pourquoi ? Déjà, pourquoi la lutte contre le trafic de drogue ? Car moralement, économiquement, on ne peut pas se permettre de laisser des drogues pulluler dans notre société. Les morts sont nombreux dus à ces substances. Les coûts sociétaux sont nombreux, ne serait-ce que la sécurité sociale et ce genre de choses. Et selon Darmanin, qui l'a affirmé récemment, il n'existe pas d'autre solution qui resterait morale. Car ce serait un aveu de défaite d'admettre que de limiter la lutte. On ne peut pas se permettre de faire autre chose, car on ferait effectivement passer un message de défaite à la population qui serait déterre et qui n'aurait aucun sens. Cependant, il existe de nombreuses critiques émises face à cette méthode. Tout d'abord, qu'elle donne lieu à de nombreuses discriminations. Parce qu'en France, on est, suivant les années, le pays le plus consommateur de cannabis d'Europe, mais également le pays le plus répressif vis-à-vis du cannabis d'Europe. Ce qui laisse lieu à un contraste entre ce qui est globalement relativement accepté par la société et ce qui est accepté par la loi, ce qui donne un grand pouvoir donc aux policiers et aux juges de mener disons, la répression qu'ils le veulent, c'est-à-dire que, pour le dire mais un peu cru, s'ils n'aiment pas votre tête, ils peuvent vous mettre en prison ou, à l'inverse, vous libérer sur le champ. De plus, on en connaît l'inefficacité notoire. C'est-à-dire que cela fait maintenant 10 ans qu'on continue chaque année d'augmenter notre budget de la lutte contre la drogue. Donc on est passé de 1 à 2 milliards en 10 ans. Et pour autant, la consommation et le trafic ne diminuent pas. On voit même qu'ils explosent. La consommation de cocaïne a été multipliée par 2. Qu'après chaque opération de police dans ce qu'on appelle communément un four, les prix restent les mêmes. Tous les gens arrêtés, toutes les quantités saisies sont remplacées immédiatement sans que cela ne fasse quoi que ce soit à l'économie de la drogue. Or, pour que cette lutte marche, il faudrait que le coût de la répression fasse coûter plus cher aux trafiquants que ce qu'elle ne coûte directement. Or, ce n'est pas le cas. On sait que les quantités saisies sont minimes par rapport à ce qui circule et qu'il suffirait théoriquement aux trafiquants de drogue que seulement 10% de ce qu'ils produisent soit vendu pour que cela reste rentable. Donc, quoi d'autre ? Eh bien, majoritairement à gauche est défendue la thèse de la légalisation. Elle vise à plusieurs objectifs. Tout d'abord, l'assèchement des revenus des organisations criminelles, car en effet, le trafic de drogue représente la première manne financière de toute organisation criminelle, avant le proxénétisme, les braquages et autres activités. Et en l'occurrence, le cannabis représente la moitié de ces revenus tirés de la drogue. Et donc c'est quelque chose qu'on a observé par exemple à la fin de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, où on a remarqué qu'effectivement les revenus des mafias et des gangs ont drastiquement baissé une fois l'alcool rendu légal à nouveau. De plus, cela permettrait d'appliquer des normes sur la vente, c'est-à-dire des taux de THC limités, de faire en sorte de ne pas vendre à des mineurs, même si on se doute que, à l'image de l'alcool, ce ne sera pas forcément très appliqué. Et on part aussi d'un constat qui est celui que le cannabis est relativement peu dangereux, notamment comparé à l'alcool et au tabac, qui sont plus addictifs et qui causent plus de morts. Et que cela peut même faire baisser la consommation de cannabis. C'était le cas au Canada, où en fait, après la légalisation, on a progressivement augmenté les taxes sur les... Au moment où on a rendu légal le cannabis, ça a du tout asséché les trafics illégaux. Et progressivement, en augmentant les taxes, on a fait diminuer la consommation. Donc c'est pas une diminution majeure, mais tout de même présente. Et il y a quand même de très nombreuses critiques qui sont émises face à cette solution. Tout d'abord que ça fait vivre 250 000 personnes, le trafic de drogue, et que donc c'est pas des gens qui vont arrêter de vendre bien gentiment rentrer dans une activité légale, et qu'ils vont probablement se reporter sur autre chose, d'autres produits peut-être plus durs, comme la cocaïne justement, ou alors casser leur prix pour continuer à vendre moins cher que sur le marché qui serait légal, et que donc la légalisation du cannabis aurait potentiellement des effets presque pires que ce que c'était avant et que ce que ça proposait. De plus, suivant la manière dont c'est amené, cela peut carrément augmenter la consommation de cannabis. C'était le cas au Colorado. On a imputé ça sur la libéralisation trop forte de la vente de cannabis, où du coup on a eu une très nette augmentation de la consommation. Ou en Uruguay, où là, le problème, c'était que l'allégation a été prise unilatéralement par le président, alors que la population n'était pas d'accord, et donc ce qui a amené à de forts mouvements contre cette mesure. Et c'est toujours le cas en France, d'ailleurs. On a 58% des gens qui se disent défavorables à la légalisation. Donc, est-ce qu'agir contre la population serait une bonne idée ? Enfin, il existerait une autre solution. Donc la dépénalisation suivie de la mise en place d'un fort appareil médico-social. C'est-à-dire, globalement, et cela s'appliquerait à toutes les drogues, en dessous d'une certaine quantité possédée par quelqu'un qui se ferait arrêter, il n'y aurait pas de poursuite judiciaire possible, mais un rendez-vous obligatoire, non pas chez le juge, mais chez un médecin ou un psychologue, suivant le système. C'est ce qui a été fait au Portugal, il y a 20 ans, 2000 ans. Ça part d'une idée simple qui est qu'on ne peut pas empêcher les gens de se droguer, mais que par contre, on peut les accompagner, soit pour limiter les risques, soit pour faire en sorte qu'ils consomment. Donc, d'abord, on devrait ajouter une prévention, ce qui est déjà un peu le cas en France, où notamment, on a pas mal de mobilisation chez les influenceurs qui s'opposent à la consommation pour une vie plus saine. Et donc, on a d'ailleurs constaté une diminution chez les mineurs de la consommation de stupéfiants. Et surtout, un suivi des addicts qui ne sont pas considérés comme des addicts, mais comme des malades, enfin, donc pas considérés comme des délinquants, mais comme des malades. Ce qui était le cas en Suisse, où quand l'héroïne est arrivée sur le marché et qu'elle a commencé à devenir un problème presque épidémique, ce qui a été fait, c'est que plutôt que de réprimer durement les addicts, ceux qui se faisaient arrêter donc, étaient obligés de suivre des rendez-vous médicaux réguliers. Et donc on leur fournissait y compris des doses progressivement de plus en plus faibles pour réellement se soigner de leur addiction. Et ça a marché. On a un arrêt de la diffusion de l'héroïne en Suisse. Et on sait que lorsqu'il n'y a pas de suivi médical fait par l'État des addicts, cela amène à des situations très graves. Et c'est plus ou moins le cas aux États-Unis où la diffusion du fentanyl a été grandement causée en grande partie par le système de santé américain qui donc prescrivait et prescrit toujours à des malades pour se soigner de la douleur du fentanyl. Puis, une fois leur traitement administré et terminé, sont relâchés littéralement dans la nature, sans ordonnance, et donc ils sont devenus addicts à l'hôpital et ne peuvent plus se procurer légalement du fentanyl et donc sont obligés de se tourner vers des réseaux illégaux. Donc cela, dans cette optique, cela devrait être suivi d'une dépénalisation, car on ne peut pas décemment suivre quelqu'un alors qu'il est, de par le système judiciaire, considéré comme criminel, enfin, comme délinquant. Et donc c'est ce qui a été mené au Portugal, qui donc depuis 20 ans mène cette politique, qui y compris a même ouvert des salles de shoot récemment, depuis le Covid, où les gens viennent consommer donc, dans des environnements où il y a un médecin qui est là pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'abus faits. Et bon, ce qui choque un peu la population, il est vrai. Et on a constaté une très nette diminution de la consommation de tous les stupéfiants au Portugal, qui est maintenant un des pays les moins consommateurs d'Europe. Pourquoi ça ne se fait pas? Tout d'abord, à cause d'un manque d'investissement dans le médico-social en général, qui s'aggrave d'année en année, et par un manque d'investissement politique de la part de nos gouvernants, qui refusent donc, comme dit plus tard, pour des questions morales, de dépénaliser la drogue, car c'est un élément dangereux, et qui cause de nombreux morts, et qu'on ne peut pas se permettre d'en avoir, qui circulent légalement. Donc pour conclure, le trafic de drogue est un problème majeur dans notre société, et un problème qui revient très régulièrement sur le devant du débat public, dont il paraît clair qu'il nécessite une lutte pour tenter d'y mettre un terme ou de le limiter, mais dont les différentes facettes et manières de procéder sont encore très débattues entre répression, légalisation ou solution intermédiaire.
ActuTerme.
Vous venez de suivre une préparation à l'épreuve orale du bac. Très prochainement, on retrouvera d'autres élèves sur l'antenne d'InfoRC.